Et c'est déjà le moment où on prend le temps de se renseigner sur un des aspects qui est maintenant indissociable de la ville de Montréal, le vélo. Et pour en discuter, comme à chaque semaine, j'ai le plaisir d'avoir avec moi en studio la directrice des programmes chez Vélo Québec, Magali Beberon. Salut Magali.
Bon matin.
Bon matin à toi. Aujourd'hui, tu viens proposer aux auditeurs et auditrices de CIBL de survoler, en fait, les stratégies pour contrer l'emportiérage.
Oui, il en a été question dans l'actualité la semaine dernière, en fait, suite à un article de Gabriel Bélan dans la presse, qui était en fait un article de suivi par rapport à un premier article qu'il avait fait l'an dernier, en juin 2022, en fait, sur le rapport de la coroner Geneviève Thériault, suite à la collision qui avait coûté la vie à un cycliste de 63 ans, Jean-Pierre Lefebvre, en juillet 2020. Puis, le scénario de cette collision-là qui a coûté la vie à M. Lefebvre, eh bien, c'est le sacré détesté emportiérage, la crainte, la plus grande peur des cyclistes en milieu urbain, mm-hmm. la peur de voir une portière s'ouvrir devant soi. Des victimes, il y en a eu plusieurs. Là, on a plusieurs vélos fantômes à Montréal qui sont en mémoire de gens qui ont été victimes d'emportiérage. Je pense à Suzanne Châtelain sur l'avenue du Parc ou à Bernard Carignan sur Saint-Denis. Puis, c'est vraiment pas des cas isolés parce que juste dans les cas qui sont répertoriés, là, qu'on a pris le soin de signaler au SPVM, depuis 2013, c'est plus de 1100 cas qui ont été répertoriés. C'est quand même 3 par semaine.
Juste pour l'emportiérage?
Juste pour l'emportiérage, ce scénario spécifique de collision, c'est quasiment plus que la plupart des autres collisions avec blessés. À Montréal, le SPVM, en fait, c'est le seul corps de police de la province qui a un code spécifique pour les suivre. Donc, ça nous donne une petite idée de l'ampleur du phénomène, même si on s'entend que ce n'est pas tous les emportirages qui sont rapportés au SPVM. Beaucoup de gens ne voient même pas l'utilité ou ne savent pas que ça se fait. Alors, à la suite de cette collision-là, la recommandation de la coroner, en fait, c'était d'instituer l'ouverture de la portière à la hollandaise. On l'appelle comme ça parce que depuis des décennies aux Pays-Bas, c'est comme ça qu'on enseigne aux conducteurs à ouvrir leurs portes. En quoi ça consiste? En fait, essentiellement, c'est de ne pas ouvrir la portière avec la main gauche, celle qui est la plus proche de la portière, mais bien de pivoter son corps parce qu'on va utiliser sa main droite, la main opposée à la portière, pour aller ouvrir la porte.
Le corps pivotant, ça nous force à regarder la rue, dans le fond.
C'est exactement ça. C'est exactement ça, le principe. Donc, c'est un nouveau réflexe. Et il y a plein de pays dans lesquels c'est enseigné depuis des années et des années. Et c'était la recommandation de la coroner de dire, qu'est-ce qu'on attend pour enseigner cette technique-là et intégrer ce réflexe-là pour les nouveaux conducteurs. Donc, en septembre 2022, suite à cet article qui disait, qu'est-ce qu'on attend? Eh bien, la SAAQ avait fait l'annonce qu'elle intégrerait à ce qu'elle appelle le PESR, donc le programme d'éducation à la sécurité routière, avant la fin de l'année, cette technique-là, pour que les nouveaux conducteurs et conductrices développent ce réflexe.
OK. Fait que c'est quelque chose qu'on devrait voir s'installer là, vraiment là, à la grandeur de la province.
Voilà. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il y avait déjà des écoles de conduite qui l'enseignaient à leurs propres élèves, peut-être de façon un petit peu plus volontaire de leur part, mais maintenant, ça fait vraiment partie du programme obligatoire. Donc, on peut s'en réjouir, c'est certainement une bonne nouvelle, mais ce n'est qu'une partie de la solution parce que, bien sûr, on touche les nouvelles générations de conducteurs, mais tous ceux qui sont déjà sur la route, ils ne sont pas au courant de cette technique-là. C'est la raison pour laquelle, l'an dernier, la SAAQ, en même temps qu'elle annonçait ça, nous a en fait octroyé chez Vélo Québec un financement pour lancer une campagne de sensibilisation sur les médias sociaux. On a expliqué l'ampleur du phénomène et on a surtout enseigné la technique. Nous, on l'a appelée l'ouverture pivot parce qu'on sait que parfois, les choses qui viennent d'Europe, on n'est pas toujours très, très ouvert à ça. Puis la Hollande, on en parle ad nauseam. Alors, on expliquait en quoi consistait la technique de la portière hollandaise ou de l'ouverture pivot pour essayer de passer le mot dans la population. Alors, c'est certain que ça fait partie de la solution. Puis, des gens vont dire, il suffit de regarder et de faire attention, on n'a pas besoin de tourner tout le corps puis d'y aller avec l'autre main. Mais c'est un espèce de systématisme qui fait en sorte qu'on n'oubliera pas. Puis, on sait qu'on a beaucoup de distractions au volant. Souvent, on arrête son auto, il s'est passé plein de choses sur notre cellulaire, on regarde notre cellulaire, puis là, on a notre cellulaire dans une main, on ouvre la portière de l'autre. Donc, les occasions d'ouvrir sa portière sans précaution sont quand même nombreuses. Mmh. Mais on ne se cachera pas, tout ça, hein, c'est de l'ordre des comportements. Puis on sait qu'il y a une limite à essayer d'agir sur les comportements et il faut plutôt se diriger vers des solutions plus systémiques. Et encore une fois, je vais parler d'aménagement. Les pistes cyclables qui sont physiquement séparées par une bordure de béton ou par des autos stationnées, ben, intrinsèquement, sont beaucoup plus sécuritaires parce qu'elles ne nous font pas longer des zones de stationnement d'auto. Alors, on pourrait toujours dire, quand c'est séparé par du stationnement, ça se peut toujours qu'il y ait un passager qui ouvre notre porte, sa porte dans notre chemin. Mais au taux moyen d'occupation des véhicules, qui est en fait de 1,2 occupants par véhicule, on a quand même 5 fois moins de chance qu'il y ait une portière côté passager qui s'ouvre que du côté conducteur. Et puis, généralement, ces pistes-là sont quand même bien faites avec une certaine zone tampon qui permet l'ouverture de la portière.
Puis même en dehors des chiffres, juste le sentiment de sécurité est beaucoup plus grand quand on réussit à être sur une piste qui est séparée là, par une bordure en béton, comme tu disais.
Bien entendu, puis ça évite aussi le stationnement intempestif juste pour 2 minutes mm-hmm. dans les pistes cyclables qui font qu'on doit faire des manœuvres d'évitement, etc. Donc, si on parle de bandes cyclables, hein, on a quand même une bonne portion de notre réseau cyclable qui est constitué de bandes qui sont simplement peintes au sol. Et bien, minimalement, d'avoir une zone tampon assurée qui invite les cyclistes à rouler un petit peu plus au centre de la voie, eh bien ça aussi, ça fait partie de la solution, puis il faut accélérer la mise à niveau de ces bandes cyclables-là. Du côté des cyclistes, bien nous, on essaye quand même de leur donner quelques conseils, puis c'est pas pour blâmer la victime, c'est juste pour leur donner un maximum de chances d'éviter ce genre d'incident. Un des conseils qu'on donne, puis c'est quelque chose qu'on enseigne même aux enfants de 10-11 ans qui passent par nos programmes d'éducation scolaire en milieu d'éducation cycliste, pardon, en milieu scolaire, c'est de rester à au moins 1 mètre des autos stationnées. Puis ça, ils le comprennent très, très vite. Là, quand on leur explique mm-hmm. qu'est-ce qu'on cherche à éviter comme incident, ils comprennent très vite que rester à 1 mètre des autos stationnées, eh bien, c'est une des façons de se prémunir. C'est sûr que c'est contre-intuitif pour des cyclistes. On a toujours l'impression qu'il faut se tasser le plus possible pour surtout pas être dans les jambes de la circulation sur la voie à côté. Mais en fait, le danger le plus grand, il vient souvent des portières, beaucoup plus que des gens qui sont derrière nous et qui vont pouvoir ralentir, nous dépasser, etc.
Fait qu'il faut rester quand même conscient que le danger peut venir pas juste des voitures derrière, mais des voitures stationnées.
C'est ça, exactement. Un des autres conseils ou une des choses que font les cyclistes peut-être un peu plus expérimentés, c'est de scanner dans les rétroviseurs pour s'assurer de mm-hmm. détecter s'il y a un conducteur. Mais bon, on a quand même beaucoup de choses à regarder quand on est sur la route en train de rouler. Alors, faut se méfier. Je vous dirais aussi, tout ce qui est taxi, hein, c'est là où les risques d'emportirage se multiplient. Ils sont souvent arrêtés. On circule, puis pof, la portière passager s'ouvre devant nous. Ça aussi, il faut vraiment s'en méfier comme de la peste. Il y a quand même certaines villes, je pense à New York, qui ont mis des autocollants en fait dans leurs taxis pour rappeler aux passagers de faire attention en ouvrant leur portière parce qu'il pourrait y avoir un cycliste. Il y a un petit autocollant qui s'appelle Look. Il y a eu une initiative ici qui s'appelait Une porte, une vie, qui avait été lancée par quelqu'un de façon totalement bénévole et autonome, qui consistait aussi à produire ces autocollants-là et à les proposer tant au bureau du taxi qu'à Communauto et d'essayer de faire circuler ça, donc d'avoir ce petit rappel dans notre porte, dans notre vitre, qui nous rappelle de faire attention aux cyclistes. Mmh. C'est toujours un petit rappel utile.
Juste une autre solution, dans le fond, à mettre en place, là, justement, pour faire attention à la vie des cyclistes.
Exactement. C'est juste de faire attention. Je rappelle quand même que c'est une responsabilité qui incombe au conducteur de s'assurer qu'il peut ouvrir sa portière sans mettre les autres en péril. C'est vraiment une responsabilité qui est inscrite dans le Code de la sécurité routière. Dernier petit conseil qu'on peut donner aux cyclistes également, bien, c'est d'être bien éclairé le soir et la nuit, parce que c'est certain que si vous circulez et que vous n'avez pas de lumière, les gens auront beau regarder dans leur rétroviseur, ils ne vous verront pas. Je finirai en disant, si jamais vous êtes victime d'un portiérage, c'est bien important d'obtenir un rapport de police qui va vous permettre d'ouvrir un dossier à la SAQ. Il y a parfois cette fausse croyance que une collision avec un véhicule qui n'est pas en mouvement, ce n'est pas un accident. Ça, c'est la définition des policiers, mais il faut savoir que pour la SAQ, si l'utilisation de l'auto a causé une collision, eh bien, on a le droit d'obtenir des compensations. Puis parfois, on ne se rend pas toujours compte qu'on a été blessé, on est sous le choc, mm-hmm. avec l'adrénaline, etc. Mais obtenez un rapport de police, ouvrez un dossier à la SAQ, puis comme ça, si vous avez besoin de traitement, de remplacement de revenus, etc., vous serez couvert.
Fait que le mot d'ordre est lancé, on signale les emportiérages, on remplit un rapport, puis on voit qu'il y a d'autres solutions aussi. Sans victimiser les cyclistes, ben, il faut continuer à donner des outils pour faire attention, autant à eux qu'aux automobilistes. Puis ben, je pense qu'il va en avoir quand même d'autres solutions qui vont continuer d'apparaître. Magali Bebrun, je te remercie beaucoup pour ton passage puis pour toutes ces informations.
Bonne semaine.
À toi aussi.